3h à Paris, 2h en temps universel, 4h à Kiev.
Antoine Galen.
À la une, Volodymyr Zelensky dit n'avoir subi aucune pression de Donald Trump durant leur appel. Une reprise des discussions par téléphone après un premier entretien chaotique à la Maison-Blanche fin février. Cette fois, le président américain a salué un très bon entretien. Plusieurs milliers de manifestants israéliens accusent Benjamin Netanyahou de dérive autoritaire. Ils étaient au pied de la résidence du Premier ministre israélien ce mercredi pour demander le retour des otages et l'arrêt des combats à Gaza qui ont fait plus de 470 morts dans la nuit de lundi à mardi. Dans ce journal également, un cartel mexicain a été démantelé par la police kényane. Et puis, 3 mois après le cyclone Chido qui a ravagé ce département français de l'océan Indien, les dons sont bloqués au port de Mayotte à cause des frais de douane. Donald Trump parle d'un très bon appel. Après leur entretien catastrophique dans le bureau ovale, les présidents américains et ukrainiens ont repris les discussions. Un coup de téléphone d'une heure au cours duquel, d'après la Maison-Blanche, une prise de possession par les États-Unis des centrales nucléaires et électriques ukrainiennes aurait été évoquée. Interrogé sur ce point lors d'une conférence de presse, Volodymyr Zelensky n'a que partiellement confirmé.
Je n'ai ressenti aucune pression de la part du président Trump. Il n'y a pas eu de pression, c'est un fait. Je suis sincère. Si c'était le cas, je le dirais. Il n'y a pas eu de question sur le réseau des centrales nucléaires. La discussion portait exclusivement sur la centrale qui est temporairement occupée, celle de Zaporijjia. Cette centrale est en danger parce que la Russie la contrôle avec des armes et elle ne fonctionne pas parce que la Russie la détient et l'occupe de manière absolue. Illégal. Le président Donald Trump m'a demandé s'il y avait un accord selon lequel l'Amérique pourrait la reconstruire. Et je lui ai répondu que oui, si nous pouvons la moderniser, investir de l'argent, etc. Nous avons parlé uniquement d'une centrale, celle qui est sous occupation russe.
Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine était prête à cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles en Russie. Le président ukrainien a ajouté qu'il se rendra en France la semaine prochaine pour rencontrer Emmanuel Macron. Et c'est dans ce contexte que le Conseil européen débute ce jeudi à Bruxelles, un rendez-vous largement consacré à la défense et son financement. La menace russe nous concerne tous, les mots d'Antonio Costa, le président du Conseil. Il aura pour mission de rapprocher les 27 États membres sur le réarmement et la relation avec les États-Unis. En Serbie, les autorités démentent avoir utilisé un canon à son contre des manifestants, un dispositif militaire utilisé pour disperser les foules. Et samedi dernier, une gigantesque manifestation anticorruption avait lieu à Belgrade. Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés en hommage aux 15 victimes de la garde de Novi Sad en novembre dernier. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un mouvement de panique et une foule qui se disperse sans raison apparente. Rassemblement anti-Netanyahou à Jérusalem ce mercredi, des milliers d'Israéliens ont manifesté au pied de la résidence du Premier ministre. Ils demandent la libération des otages et disent stop à la reprise des combats à Gaza. Mais Benjamin Netanyahou a décidé de reprendre la guerre. Les bombardements de l'État hébreu ont coûté la vie à plus de 470 personnes à Gaza. La rue israélienne y voit une manœuvre politique cynique de Benjamin Netanyahou dont l'objectif est de se maintenir au pouvoir à Jérusalem. Samy Boukhelifa.
Maya porte un t-shirt avec les portraits de ses neveux Gali et Ziv Berman, des jumeaux otages du Hamas.
Chaque jour supplémentaire qu'ils passent dans ces tunnels à des dizaines de mètres sous terre met leur vie en danger. Les otages précédemment libérés nous ont raconté à quel point ils se sentaient en danger lorsqu'il y avait des bombardements. Tous les otages sont donc en danger et mes neveux Gali et Ziv le sont aussi.
Pour Talia, en reprenant la guerre, Benjamin Netanyahou a décidé d'abandonner les otages.
Il fait son possible pour que les otages ne soient jamais libérés. Il le sait, si les otages sont libérés et que tout s'arrête, son gouvernement tombera. Netanyahou a conclu un pacte avec l'extrême droite israélienne. Ces gens se préoccupent davantage de s'accaparer la terre que de la vie humaine. Ils sont dénués de toute morale.
À ses côtés, Irit appelle à la fin immédiate de la guerre pour sauver les otages israéliens et les Gazaouis.
Cette guerre brutale n'aurait jamais dû avoir lieu. Je ne pense pas que les Gazaouis doivent être tenus pour responsables. Je suis désolée de ce qui leur arrive, vraiment.
Samy Boukhelifa, Jérusalem, RFI.
Et lors des bombardements israéliens, un bâtiment qui abritait des employés de l'ONU a été touché. Au moins un mort et cinq blessés. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, se dit profondément attristé et réclame une enquête complète. Erdogan, dictateur, imamoglu, tu n'es pas seul. En Turquie, l'arrestation de l'opposant numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan offusque l'opposition. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, est poursuivi pour corruption et soutien à une organisation terroriste. Il devait être investi par son parti, le CHP, pour la prochaine présidentielle. Ce mardi, son diplôme nécessaire pour se présenter avait été annulé par l'université d'Istanbul. 5h05, à Nairobi, le trafic de drogue pose question au Kenya. En septembre, un laboratoire de production de méthamphétamine, une drogue de synthèse mortelle, a été démantelé par la police kenyane. Le département d'État américain révèle qu'il appartient à un cartel mexicain. Gaël Alex.
C'est la première opération mexicaine de grande échelle confirmée au Kenya, écrit le département d'État américain. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération s'était installé au fin fond de la forêt des collines de Namanga, à la frontière avec la Tanzanie. Sur renseignement américain, la police kenyane a pu arrêter en octobre un membre du cartel alors qu'il tentait de rejoindre Mexico. D'après l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Kenya représente une plateforme mondiale du trafic de stupéfiants. L'héroïne d'Asie et la cocaïne d'Amérique latine y transitent à destination de l'Europe. Passer à la production représente donc une étape supplémentaire pour le pays. Le département d'État américain note le manque de volonté des autorités pour lutter contre ce trafic. Malgré des lois très strictes, le taux de poursuite et de condamnation reste très faible, écrit le rapport, qui rappelle que le trafic de drogue reste un des principaux moteurs de la corruption au Kenya. Selon Martha Koum, la présidente de la Cour suprême kenyane, en 2021 et 2022, plus de 520 000 affaires de trafic de drogue ont été jugées. Plus d'un tiers d'entre elles étaient en souffrance depuis près de 3 ans. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
En Côte d'Ivoire, le groupe parlementaire du PPACI a claqué la porte ce mercredi, et ce à l'ouverture de la séance en plénière de l'Assemblée nationale. Une manière de protester contre l'absence du nom de son leader, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale provisoire. Au-delà de l'absence de son candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain, les députés contestent le fait que la CEI a décidé de ne pas procéder à la révision de la liste alors que la loi de finances du budget 2025 a été adoptée. C'est ce que souligne Hubert Houlay, le président du groupe parlementaire du PPACI. Plus de 3 mois après le passage du cyclone Chido à Mayotte, l'archipel est toujours dévasté. Alors dans un élan de générosité, 42 millions d'euros de la Fondation de France ont été récoltés. Mais certains de ces dons acheminés sont aujourd'hui bloqués au port à cause des frais de douane. Les explications de Sylvie Coffi.
Professeur de sport à Mayotte, Brieux-le-Bévert a mobilisé toute sa communauté pour venir en aide aux Mahorais. Il a collecté 60 mètres cubes de vêtements qui sont bloqués au port depuis un mois. Les droits portuaires qu'on lui demande s'élèvent à plus de 5 000 euros.
C'est incompréhensible ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi le préfet nous refuse la réquisition des conteneurs pour qu'on puisse récupérer nos dons gratuitement. Sauf que à un moment, ce sont des dons que les personnes sur place ont besoin. Que ce soit nos vêtements comme les conteneurs où il peut y avoir de l'eau, de la nourriture, c'est des choses que les gens sur place ont besoin parce qu'on ne les trouve pas dans les magasins et on ne comprend pas pourquoi c'est bloqué.
Alerté, le sénateur Saïd Omaroli pose la question au gouvernement en séance publique. Réponse du ministre chargé des relations avec le Parlement.
La réquisition s'inscrit dans un cadre juridique précis lié à l'urgence et à des impératifs d'ordre public. Sur l'acheminement des dons, je rappelle l'importance pour les donateurs de prévoir autant que faire se peut les frais dans leur intégralité, notamment transitaires ou de manutention. Rappelons que suite à Chido, les biens destinés à l'aide aux victimes peuvent être exonérés de droits de douane.
L'exonération prévue par l'État a été appliquée à hauteur de 80 euros. Pour l'instant, il n'y a aucune solution pour ce professeur, à part payer la note et les taxes qui continuent à grimper chaque jour.
Et puis, quelques résultats de football. 5e journée de qualification de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. 0-0 entre le Cameroun et l'Eswatini. Victoire 4-1 pour Madagascar face à la République centrafricaine. La Tunisie l'emporte 1-0 contre le Liberia. Et puis du sport toujours, mais cette fois sur les pistes. La Française Perrine Laffont a décroché son 6e titre mondial en ski de bosse. C'était à Saint-Moritz en Suisse. À 26 ans, elle devient la première skieuse à remporter 3 fois de suite le titre mondial.